bénévole informaticien d'Alice 44. C'était un reportage de Vincent Podeau pour Alternante FM.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Savourez nos différences sur Radio G.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Creature Shock Radio FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Mafia. Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, un mercredi sur deux sur Radio G. Salut les gars, alors ce soir, on a dit qu'on allait parler d'Espagne.
Waouh.
Alors pourquoi? Parce que c'était les vacances et plusieurs membres de l'équipe sont allés en Espagne. Alors on fait coucou à nos amis espagnols.
Bien sûr, on les embrasse, hein, évidemment.
Et bien sûr, tous celles et tous ceux qui étaient en vacances la semaine dernière.
On y est encore un peu quelque part.
Oui, il fait beau.
Ouais, ouais.
Alors ce soir, bien sûr, on continue à parler de cinéma, de bande dessinée, de séries télé, de livres,
ouais,
de musique,
télé, livres,
tout ce
comme
qu'on
d'habitude.
Aime.
Notre éclectisme habituel.
Alors on va démarrer avec un morceau de musique. Pablo.
Alors oui, qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors oui, c'est toi qui nous proposes.
Eh ben c'est moi qui propose. Bah écoute, on a trois morceaux qui peuvent être sympas.
Alors Natijou, Calle 13 ou Residente. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors. Et du coup, c'est pas espagnol, mais c'est hispanique.
Exactement. Bah, moi,
oui, alors on dit Espagne, mais en fait, on va être espagnol plutôt.
Bien sûr.
Ouais,
Hispanohablante.
Hispanohablante.
Ah, oui.
Bah, moi, je propose Ana Tijoux. Alors, Ana Tijoux, c'est une franco-chilienne, rappeuse, et bah, elle vit à Paris, et puis bah, c'est plutôt sympa ce qu'elle fait.
On écoute tout de suite de Radio G.
Sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point. Yo.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo
alzar la voz. No estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno. Tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, se lúcida, lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Et oui, comme vous vous en doutez, on va démarrer par le cinéma.
En plus, avec Hollywood qui sont en grève.
Allez-y, les gars.
Je vais laisser Pablo débuter.
Vas-y, Pablo. Ah, bah alors, je commence. Alors, du coup, alors moi, je vous propose une petite trilogie, la trilogie du Bastan de Dolores Redondo. C'est une romancière qui écrit des polars et dont les films ont été portés à l'écran sur Netflix. Et vous avez trois films donc qui sont disponibles, Le Gardien Invisible, De Chair et d'Os et Une Offrande à la Tempête. Je vous lis un synopsis hein, du premier, c'est-à-dire Le Gardien Invisible. Au bord de la rivière Bastan, en Navarre, est découvert le corps nu d'une adolescente dans la même position que lors d'un crime commis un mois auparavant. Une inspectrice de police, Amalia Salazar, revenue de formation au FBI, mène donc une enquête au village basque d'Elizondo, son village natal situé dans le nord de la Navarre, où elle s'était jurée de ne plus jamais revenir. Malgré ce lourd passé, elle tente de trouver à tout prix le tueur en série. Au cours d'une enquête qui va mêler superstition, sorcellerie et mythologie basque. Je vous signale également, alors, de la même autrice, hein, Dolores Redondo, un très beau roman que j'ai bien aimé, qui est une sorte de thriller, enfin qui commence comme un roman mais qui va finir en thriller et qui s'appelle, qui se passe en Galice, hein, je précise, en Galice. Tout cela, je te le donnerai. Tout cela, je te le donnerai. Donc voilà, la trilogie du Bastan de Dolores Redondo et tout cela, je vous le donnerai.
Merci Pablo. Wow, tu nous le donnes ça.
Voilà.
Quel cadeau. Cadeau. Quel cadeau, ça fait plaisir.
On écoutera sa catéla après.
Carrément, carrément.
Et ça c'est cadeau, ça fait plaisir.
Yo. Un autre film ?
Eh ben en fait, Bang Geek Mafia, c'est évidemment une émission où on se concerte et on est vraiment très précis parce que figure-toi que je vais rebondir exactement sur ce que tu disais parce que je vais parler d'un film où il est sujet, enfin où le sujet évidemment c'est une rivière là également. Alors c'est un film qui s'appelle El Agua, c'est un film que je n'ai pas vu mais que j'envisage évidemment de voir. Je l'ai raté de peu et je voulais voilà vous le présenter, et peut-être vous donner envie de le voir potentiellement si jamais ça vous dit. Alors il s'agit, je vous fais le synopsis dans un premier temps, quelques critiques et puis ensuite je vous dis un petit mot sur ça, sur la réalisatrice bien sûr. Alors cet été, dans un petit village du sud-est espagnol, une tempête menace de faire déborder à nouveau la rivière qui la traverse. Une ancienne croyance populaire assure que certaines femmes sont prédestinées à disparaître à chaque nouvelle inondation, car elles ont de l'eau en elles, enfin l'eau en elles plutôt. Une bande de jeunes essaie de survivre à la lassitude de l'été, ils fument, dansent, se désirent. Dans cette atmosphère électrique, Anna et José vivent une histoire d'amour jusqu'à ce que la tempête éclate. Alors, est-ce que ça vous a donné envie?
Pas mal.
Alors, c'est original.
Ouais, des un rock, il est dit la chose suivante, je les cite bien sûr. Cette romance n'a de consistance que parce qu'elle devient sous nos yeux émerveillés une fable revenue d'un passé immémorial qui nous constitue autant qu'il nous dépasse et nous subjugue. Et, un petit mot quand même, de la part du monde, dans ce matériau documentaire, Elena López Riera tisse une fable magnétique illuminée par la présence d'une jeune comédienne non professionnelle, Luna Pamies, qui joue le rôle d'Anna. Et alors, un petit mot encore de Libé. Un film intriguant et attachant, carrefour où se rencontrent la fiction et la réalité, les mythes et la vérité, la magie et l'ordinaire, une cinéaste et son intimité. Le film se passe autour d'Orihuela, où Elena López Riera a grandi. Orihuela, c'est vraiment près d'Alicante, je le pose là. Hein, c'est
une ville qu'on aime bien.
Une ville qu'on aime bien. Alors, un petit mot sur la réalisatrice, qui donc, il s'agit en fait simplement, c'est ce que je voulais dire, de son premier long métrage, puisque auparavant elle avait fait 3 courts métrages, Pueblo, Las Viceras et Los que Desean, et là c'est son premier long métrage, El Agua, en 2022. Et voilà, je vous l'ai dit, de Orihuela, 1982, donc pour la naissance de Elena López Riera. Voilà, pour ce premier film que je n'ai pas vu, mais que j'aimerais bien voir.
Oui, alors c'est vrai qu'en France, on connaît beaucoup les films de Pedro Almodovar. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est de vous, voilà, de vous parler d'autres réalisateurs, réalisatrices.
Exactement.
D'autres types de films espagnols, hispano-américains.
Alors j'ai un petit lien, un petit dernier, si vous voulez bien.
Oui, El Buen Patron.
Eh ben voilà, j'y viens.
Ah.
Mais alors, El Buen Patron, c'est surtout parce que c'est un clin d'œil, parce que on a déjà parlé dans l'émission de certains films qu'on aimait, notamment des films espagnols, tu sais
alors,
bien.
Alors, Princesas.
Exact.
Camino.
Camino, ouais.
Et Los Lunes al Sol.
Eh ben, figure-toi que point commun entre notamment Princesas et puis Los Lunes al Sol, c'est le réalisateur qui est León de Aranoa et, je te le donne en mille, qui a réalisé El Buen Patron?
Eh ben, le même réalisateur.
Eh ben, tout à fait. El Buen Patron, ce film-là, en revanche, je l'ai vu et vraiment, je l'ai adoré. C'est avec, souvent, vous savez, Aranoa, il reprend les acteurs qui ont déjà joué dans ses films précédents. C'est le cas de Bardem. Et puis, j'oublie un autre acteur aussi, je te citerai le nom. Comment dire? C'est un film qui tourne autour d'un patron. C'est un peu grandeur et décadence d'un patron, qui a une entreprise qui fabrique des balances. Alors, justement, il y a toute l'image par rapport aux balances et à l'équilibre, évidemment, et à qui tout sourit, tout réussit, aussi bien professionnellement qu'au niveau familial et ainsi de suite. Et évidemment, le film aussi a son intérêt là-dedans, il affiche forcément pour séduire un visage qui n'est pas tout à fait le sien. Et en réalité, quand les choses basculent, on découvre quel est son vrai visage. Et c'est vraiment un petit bijou de cynisme comme sait le faire Aranoa. C'est vraiment savoureux. On rit vraiment beaucoup et on rit surtout de ce cynisme-là. Les acteurs sont excellents et il y a un petit peu une lutte aussi du pot de terre contre le pot de fer dans une entreprise. C'est vraiment un film que je recommande vivement. Voilà.
C'est une comédie, hein, c'est ça?
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Une comédie, mais qui ne se contente pas juste de faire rire. Il y a aussi de la réflexion. C'est vraiment un vrai petit bijou que je vous conseille de regarder. Il est disponible sur les plateformes de VOD, notamment Canal. Voilà, tout simplement. Si vous avez envie de voir ce film, c'est vraiment une belle trouvaille. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc.
Merci Romain.
Merci beaucoup.
Petite pause musicale.
Ouais,
tout à fait.
Alors on va écouter La Femme, qui n'est pas du tout un groupe espagnol, mais qui chante sur leur dernier album Teatro Lucido.
Exactement.
Qui chante en espagnol, en particulier un titre très très sympa qui s'appelle Sacatela.
Ah.
On pourrait peut-être dédicacer à Marianne Reles.
Ouais, par exemple, on l'embrasse.
Tout de suite sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Sácatela, sácatela, sácatela. Cuando tú giras.
C'était La Femme avec Sakatella dans Band Geek Mafia.
Creature Shock Radio FM.
Alors il reste un film, ce n'est pas un film espagnol.
Non, c'est pas un film espagnol, hein, c'est un blockbuster, on va dire
c'est
comme ça.
C'est le plus grand succès pour l'instant
oui,
du cinéma.
Ouais, et ça ne me surprend absolument pas, puisqu'il s'agit de Mario Bros. Et alors là, moi je dis franchement, c'est une très belle réussite.
Alors Paul l'a vu, il a bien aimé. Hein.
Ah oui, il y a plein de clins d'œil pour tous ceux qui aiment un petit peu l'univers de Mario, des jeux vidéo. Là, on le retrouve complètement.
On aime ça ici.
Et ça, on aime ça. Il n'y a aucun souci.
Ouais, c'est marrant parce que j'étais sceptique. Alors, vas-y.
Alors, je vais d'abord faire le synopsis. Alors qu'ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se trouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario tente, dans une aventure trépidante, de retrouver Luigi, et je n'en dirai pas plus.
Alors, est-ce que c'était bien ?
Oh, c'était génial.
À mon avis, il y a plein de références.
Il y a toutes les références. Alors, on a les références vraiment des jeux vidéo des années 80 jusqu'au tout dernier jeu vidéo de Nintendo avec Mario. Donc là, on a vraiment toute la gamme, on a toute la palette, et puis on a vraiment des personnages magnifiques.
Est-ce qu'ils font du kart ?
Oui.
Wow. Mario Kart, oui.
Mario Kart, oui, mais je ne vous dirai pas tout parce que là, autrement, ça serait vraiment dévoilé.
Je crois qu'on est déjà à 4 millions d'entrées. Hein.
Ouais, c'est vraiment un gros succès. Bah, faut dire que on aime bien tout ce qui est Mario. C'est vrai que Mario, c'est un petit personnage qu'on aime bien.
Voilà.
Une mini question, du coup, est-ce que je m'attends à la réponse, mais je sais pour confirmation. Est-ce que c'est un film qui possède plusieurs lectures, qui vraiment puisse être agréable pour les enfants, mais aussi des références pour les adultes ou pour les gamers et des choses comme ça, qui est plusieurs filtres.
La référence pour les gamers et pour les adultes, tu le retrouves sur les petits clins d'œil là justement. D'accord. Qui font référence. Les enfants, eux, ils s'éclatent, voilà. ils s'éclatent à voir.
Il y en a pour tout le monde.
Il y en a pour tout le monde. Là, on passe vraiment un bon moment. Et puis là, on pense à rien du tout. Quoi.
Ça fait du bien.
Et surtout, moi, un petit conseil. Regardez bien le générique de fin jusqu'au bout.
Ah, comme pour les Marvel.
Ah oui, non, mais là, il faut même attendre un petit peu parce qu'il y a une petite surprise.
Merci pour le tuyau.
Voilà, c'est le petit tuyau.
Ouais. C'est bien, c'est bien. Alors, un petit morceau toujours espagnol qu'on a écouté, Ay Carmela. c'est Elena qui nous a fait découvrir ça. C'est du groupe Guarana. Dans Band Geek Mafia sur Radio G.
5.5. Radio G.
cosa. ¿Quién conoce a Carmela? ¿Quién ha nadado en su playa? ¿Quién ha bailado con ella? ¡Oye! Una muchacha con el cuerpo tan tostado, y ay qué rica esa mulata. Trabajaba en Varadero, me servía margaritas, y cuando estaba entonado la sentía tan bonita. Ay Carmela, llévame esta noche entre tus brazos. Ay Carmela, prometo que te haré un buen trabajo. Ay Carmela, quiero ver el pelo desde abajo. Ay Carmela, quiero derretir. A ver el cielo, bucear entre corales y explorar todo su cuerpo. Y en mi barco de papel siempre tengo una botella, por si me llegara el frío, por si ella no estuviera. Ay Carmela, llévame esta noche entre tus brazos. Ay Carmela, prometo que te haré un buen trabajo. Ay Carmela, quiero ver el cielo desde abajo. Ay Carmela, quiero derretirme entre tus labios, entre tus labios. ¡Síguelo! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Llévame esta noche entre tus brazos. ¡Ay, Carmela! Prometo que te haré un buen trabajo. ¡Ay, Carmela! Quiero ver el cielo desde abajo.
Avec Ay Carmela.
Romain ? Bien sûr, on embrasse Carmela sur les deux yeux, de là où elle nous regarde. Private joke.
Private joke.
Creature Shock Radio FM.
Alors tout de suite, la suite Pablo, un petit livre peut-être ?
Allez, un petit livre. Alors moi, je vais vous parler d'un polar dont j'ai déjà parlé, mais je vous en redis un petit peu parce que je suis en train de voir la série aussi. Ça s'appelle La Reine du Sud, La Reina del Sur, de Arturo Pérez Reverte. Alors je vous conseille vraiment, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre.
Très grand écrivain.
Ouais, magnifique écrivain. Et La Reina del Sur, je vous donne son résumé. Nom Mendoza, prénom Teresa, nationalité mexicaine. Veuve de Raimundo Dávila Parra, dit El Güero, pilote d'avion à la solde du cartel de Juárez, mort assassiné. S'installe en Espagne, probablement à la tête de la plus grosse entreprise de transport de cocaïne et de haschich en Méditerranée, pour le compte du cartel de Medellín. Des mafias russes et italiennes, hein, tant qu'à faire. Femme d'affaires redoutable et redoutée, dangereuse, multimillionnaire, mène une vie discrète, aime le rêve et la solitude en mer, à bord de son yacht. Aucune preuve n'a pu être retenue contre elle. Donc voilà le pitch. Donc ça met l'ambiance. Et effectivement, alors, si vous aimez les cartels mexicains, à la, voilà, à la Juárez...
Je sais pas si on les aime.
Voilà, je sais pas trop. Il faut les aimer de loin, hein, à travers un écran. Ouais. Voilà, en tout cas, si vous aimez tout ce qui est... Donc là, on est vraiment au cœur de ça, avec la, évidemment la DEA, Drug Enforcement Administration, la lutte anti-drogue des Américains, qui ont perdu sa trace en Espagne. Mais pas nous, puisque nous la suivons dans ses péripéties, qui l'amènent aux confins de l'Andalousie, là où vous étiez.
Eh bien,
voilà, face au détroit de Gibraltar. Ah. Et c'est ainsi que la jeune Teresa Mendoza va devenir la reine du Sud. Sa force, c'est son intelligence et son audace, la finesse de ses intuitions, qui font mouche à chaque fois. Le roman est bien écrit, il est efficace, il nous tient en haleine. Arturo Pérez Reverte est un maître en la matière. Alors je vous signale aussi donc, son roman a été porté à l'écran sur Netflix. Alors on a deux séries. La première, elle est assez spéciale, c'est vraiment pour les amateurs de telenovelas, c'est une mouture vénézuélienne. Elle fait plus de 60 épisodes par saison. Donc là vraiment on est dans le style typique de la telenovela vénézuélienne, donc par curiosité allez jeter un petit coup d'œil. Sinon il y a un remake américain, Queen of the South, qui est bon voilà plus efficace, plus gangsta, plus voilà. Les showrunners prennent quelques libertés avec le roman, mais l'intrigue reste efficace, pas mal. C'est rien d'exceptionnel à mon sens non plus. Moi je vous conseille plutôt de revenir au roman, qui est excellent. Voilà.
Merci, la Reine du Sud. Cool.
Merci.
Seb, des BD.
Bien sûr, des BD, en veux-tu, en voilà. Alors.
Ah bah j'en veux.
Hein, t'en veux. Ben voilà.
A mi me gusta.
A ti te gusta. Bon. Eh bien, deux bandes dessinées. La première, c'est un petit sujet historique comme d'habitude. Clémenceau, le crépuscule du tigre de Benoît Mélie, aux éditions des Ronds dans l'eau. Donc, on retrouve en 1923. L'histoire reprend son souffle après la Première Guerre mondiale. Georges Clémenceau a presque tout connu, sauf une vraie grande histoire d'amour. On croit tout connaître de Clémenceau, grande figure du siècle passé que l'on surnommait le Tigre. Pourtant, que sait-on de sa rencontre avec Marguerite Bandensperger, alors excusez-moi sur la prononciation du nom, au soir de sa vie? Et donc justement, on a cette bande dessinée qui relate cette relation platonique avec cette jeune femme, hein, je le dis tout de suite.
Oh.
Ah bah oui, non mais faut dire que lui, le papy, il a 80 balais.
L'expérience.
Oui, l'expérience, mais bon, enfin bref. Et on voit que cette relation, au fil de cette relation, une relation amicale extrêmement importante aussi en même temps, qui va redonner un petit peu goût à la vie à notre Georges Clémenceau, mais aussi à cette Marguerite qui est bien touchée par le malheur, comme on peut dire.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est une bonne découverte, hein. Je connaissais pas du tout, vraiment très bien, un petit cahier historique, quoi, une petite présentation à la fin, et un graphisme sympa, et puis qui remet en perspective aussi en même temps qui était Georges Clémenceau aussi, ses combats, et pas uniquement
la Première Guerre mondiale,
ou le résumé aussi à son rôle de ministre de l'Intérieur, ou voilà quoi.
Une autre BD, Seb.
Alors une autre BD, mais alors là totalement.
Ah oui, les Fatal Picard qu'on va écouter.
Les Fatal Picard qu'on écoutera après. Donc voilà. Donc aux éditions Bambou Éditions, Carrera et Erwan décident de faire Fatal Picard Comics Club. Alors, vous croyez connaître les Fatal Picard? Détrompez-vous, ce fleuron du rock hexagonal mène une double vie. Vie loin des projecteurs, des salles de concert et des studios d'enregistrement. Parallèlement et tambour battant, ils endossent leur costume de personnages de BD. Voici donc relaté sans exagération aucune, ce n'est pas le genre de la maison, les aventures véridiques du Fatal Picard Comics Club. Donc voilà, une bande dessinée, on a trois petites histoires assez sympas. On retrouve donc justement les membres du groupe qui sont qui vivent des aventures. Je peux pas raconter parce que là, mais franchement, non. c'est
ils voyagent un petit peu.
Ouais, ils voyagent un petit peu. C'est voilà, sur la dernière histoire, ils voyagent énormément. Ils vont en Écosse. Ils vont en Écosse. C'est
alors
assez
nous
sympa.
On a un lien parce qu'on a rencontré un chauffeur de taxi.
C'est vrai.
En Espagne.
Très sympa,
ah, qui ouais. était allé en vacances en Écosse.
Exactement.
Il nous a raconté un peu sa vie.
Ouais, c'est vrai.
Excellent. Et vous avez voyagé encore.
On voyage beaucoup.
On n'a pas arrêté.
Et alors, dis-moi, cette BD, elle est plutôt sur le mode comique.
Très comique. Ouais, extrêmement comique. Hein. Là, ouais, c'est du délire à l'état pur. C'est de la folie. Le premier épisode, on a l'impression d'avoir un épisode de Scooby-Doo. Voilà. Ça, je peux le dire. Hein, de toute façon, à un moment même, d'ailleurs, l'un des personnages dit non, mais vous n'avez pas l'impression qu'on est un peu dans un épisode de Scooby-Doo?
Ah, oui. Le clin d'œil est fait.
Le deuxième, alors là, par contre.
N'en dis pas trop.
Non, le deuxième, ça, c'est pas mal. La télé-réalité.
D'accord.
Ça bâche.
Elle prend cher.
Elle prend très, très cher. Là, ça.
Waouh. Super, merci, Seb.
Super. Et puis, donc, le troisième, c'est l'Écosse.
Ah, l'Écosse.
Merci voilà. beaucoup.
Pablo, t'as un autre bouquin?
Un petit polar.
Allez.
Alors cette fois, c'est un polar français, mais qui se passe en Espagne. Il s'appelle Lucia, de Bernard Minier, 2022. Alors moi, Bernard Minet, c'est, j'aime beaucoup.
C'est pas Bernard Minet, c'est pas la mère
Gaspard. C'est pas le même. Mais voilà, je me doutais que vous alliez. Voilà,
ah,
c'est
la mère Gaspard. Ah, bah, c'est la braise.
Mais
c'est
pas fini. On connaît nos classiques. Mais là, je parle d'un romancier quand même français qui quand même, qui nous fait des polars bien gore, bien noir, comme on aime. Donc,
ah oui, quand c'est brûlé, hein, la mère
voilà,
Gaspard, c'est sûr.
C'est clair, c'est bien noir. Donc après le commandant Servaz, Martin Servaz, qui nous avait ravis, voici la nouvelle héroïne de Minier, l'espagnole Lucia Guerrero, dite la guerrière. Aussi belle que coriace, une petite lumière au cœur des ténèbres. Résumé, à l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son coéquipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le tueur à la colle. Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes. Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace, sur la piste de crimes inouïs, les coulisses inquiétantes d'une des plus vieilles universités d'Europe. Ceux qui ont lu Vallée secrète, donc qui a été publié en 2021, livre autobiographique, ne seront guère surpris par ce désir d'ailleurs de l'enfant de Montrégeau, je ne sais pas si je le prononce très bien, en Haute-Garonne, petite ville du pays de Comminges, au pied des Pyrénées. La mère de Bernard Minier, arrivée en France à l'âge de 8 ans, était originaire de Graus, une ville du Haut-Aragon. Or, c'est justement le lieu d'une des scènes de crime du roman Lucia. Qui est Lucia ? Une trentenaire, toute de noir vêtue, le corps couvert de tatouages, un crâne, des roses, du fil barbelé, des phrases en écriture cursive, des chiffres romains. Cette fille, d'une Russe et d'un Castillan, travaille à l'UCO, l'unité centrale opérationnelle de la Guardia Civil, la gendarmerie espagnole. À son palmarès, l'arrestation d'un tueur en série qu'elle n'a pas hésité à provoquer sans vraiment en référer à sa hiérarchie. La vie de Lucia est totalement compliqué. Bref, Lucia, c'est vraiment un très très beau roman. Je vous conseille vraiment ce polar qui vous emmène au cœur des ténèbres, mais avec cette petite lumière espagnole.
Waouh. Ouais. Merci Pablo.
Et aproveche.
Merci. Moi, je termine rapidement avec Astérix en Hispanie, quand même. Je rappelle l'existence de cet album d'Astérix, qui est pas le plus connu. C'était le 14e album d'Astérix, publié en 1969. Hein, donc, ça date pas d'hier. Mais alors, le résumé est intéressant parce qu'on est en moins 45 avant Jésus-Christ et toute la région de Munda en Hispanie est occupée par les Romains. Toute, non! Un village peuplé d'irréductibles Ibères résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et donc, pour les forcer à se soumettre, que fait Jules César? Il fait enlever le petit Pépé, le fils du chef du village, et il l'envoie en otage au camp de Baba Orom, hein, sous la surveillance d'un légionnaire. Sauf que le petit garçon, il est malin, il s'échappe, il se retrouve dans le village d'Astérix et Obélix, et l'aventure commence. Il va falloir ramener le petit Pépé en Espagne.
Et manger de l'huile d'olive.
Oh là là, et pas seulement de l'huile d'olive.
Et du chorizo.
Et aussi du chorizo, exactement. Et le chorizo français, c'est quoi?
Bah, le saucisson.
Non, c'est la merguez.
C'est la merguez. La tête à l'ombre sous un
palmier. Alors bon, on va peut-être pas la passer celle-là.
Quand même, sachez que Bande Geek Mafia, c'est quand même une émission culturelle et on a exporté le meilleur de la culture française en Espagne.
C'est vrai.
Puisqu'on a transmis là-bas l'amour pour cette chanson de Merguez Party.
C'est la Merguez Party.
Donc la version espagnole, c'est El Chorizo Party, non?
Ouais,
mais pourquoi pas? Pourquoi pas une reprise?
Alors on va écouter les Fatal Picard avec le titre noir, comme ça fait le lien entre ta BD et le polar de Pablo, c'est parfait.
Allons-y, c'est parti.
C'est dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G.
Chanson son spleen. Mais à grands coups de Doc Martens, t'as laissé ta meute au vestiaire pour une place près du fût de bière et un pogo à la mémoire de tes années berruriers noirs. La crête un peu moins droite, les idées bien à gauche. Tu as ton doigt tendu bien haut pour un dernier palicao. Salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Banda, salut à toi punk anarchiste, salut à toi skin communiste. Elle est pour toi cette chanson-là, toi le rebelle devenu papa. Toi qui ne rêvais que de coloc et qui maintenant touche les allocs. T'as laissé ta veste à l'arrière de ta famille, y'a le bleu de mer. Pour anti-slam en souvenir de toutes tes années noires désirs. Pour toi l'espoir s'est arrêté à Vilnius un jour de juillet. 10 ans après, salut pour moi, le pressé qui sommeille en toi. As-tu changé en roi? À hurler à la lune, à traquer la fortune, tout ça pour traîner son poids. On risque de s'y plaire au moment de s'y croire. Sonner les coups verts, c'est donner l'exitoire. Il faudrait qu'on s'élève au fond, il a de la classe. Ou alors qu'on prenne le fève comme elle vient. Toi l'anarchiste sans dieu ni maître, qui a rangé son drapeau noir, faute de vent, faute de grand soir. Pour tous ceux qu'on n'a pas cités, Ludwig van Pascal sont bouchés. Tous ceux qui n'oublieront jamais que le présent n'est plus ce qu'il était. On était jeunes, on était beaux, on sentait qu'on l'a contrairement. Et si la jeunesse n'est dure pas, il nous reste toujours pas de chanka. Tu me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Rita la mía, por lo menos daré cuenta.
Voilà, c'était les Fatal Picard avec Noir. Et je pense que ça a plu à Florence.
Et ouais. Et je crois qu'il y avait clairement un hommage.
Creature Shock Radio FM. Alors évidemment, on va vous parler rapidement de l'Espagne, mais surtout de l'Andalousie, la plus belle région d'Espagne quasiment après Valence.
Oulala ah, les gars,
il y a eu débat. Non, mais il y a eu débat. Voilà, Romain nous a beaucoup parlé de Valence, un peu d'Alicante, mais nous, on a bien aimé Almeria, Malaga, Granada.
Enfin, voilà. On a deux patries là-bas. Il y a l'Andalousie et la région Valence.
Voilà, exactement. Alors, l'Andalousie, on vous conseille. Moi, je connaissais Séville et Cadiz. Donc plutôt l'ouest de l'Andalousie. Là, on est allé à l'est, Almeria, Malaga et Grenade. Alors, c'est super parce qu'au printemps, c'est comme l'été ici, quoi. Il fait 26, 27, il fait beau, il y a la plage. Déjà, ça c'est sympa. On se sent bien en vacances. On fait un petit peu l'office de tourisme.
Ah mais clairement, faut y aller absolument.
Et puis on était basé à Almeria. Alors Almeria, c'est pas la ville la plus connue. C'est un peu connu à cause de la chanson, enfin grâce à la chanson de Serge Gainsbourg. Initials BB, parce qu'à un moment donné, il dit Almeria.
Ah, oui.
Et alors, pourquoi aller à Almeria? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas par la plage? Il y a le Cabo de Gata. Alors, le Cabo de Gata, c'est un cap. C'est le cap de la chatte.
Oui, peut le dire. Enfin, Gata veut dire, effectivement.
C'est ça. Ouais, ça veut dire chat.
Alors, c'est magnifique. Il y a des très belles plages.
Ah, oui, tout à fait.
Et puis, on peut pique-niquer. Le soir, il y a des couchers de soleil assez incroyables. Donc, on vous conseille. Et puis, autour d'Almeria, il y a aussi Tabernas, il y a le désert où ils ont filmé les westerns, Indiana Jones, Conan le Barbare, enfin voilà. Donc, il y a des lieux comme ça de tournage de cinéma. Et puis, dans la ville elle-même, il y a plein de musées à voir. Il y a le musée de la guitare, très intéressant, pour ceux qui jouent de la musique.
Tout à fait.
Le musée de la guitare.
Exactement.
Parce que c'est un espagnol d'Andalousie, un Andalou, qui a créé la guitare moderne, en fait, puisque La guitare a évolué avec le temps, depuis le Moyen-Âge, et la guitare moderne a été créée en Andalousie, en Espagne.
Voilà. Donc, il y avait la guitare flamenca.
Ah bah, alors on a vu un superbe spectacle de flamenco, c'était un truc de malade.
Ouais.
Sans rire, un soir, on va dans une petite boîte, à côté de l'Alcazaba, à côté de la forteresse.
La Casa Azul, si je dis pas de conneries.
Alors, vous, la maison était bleue,
oui,
adossée à la colline. On est venu à pied d'ailleurs. On n'a pas frappé.
C'est ça.
Parce que ceux qui vivent là,
on jetait la clé, bien sûr.
La Guajira.
Exactement.
Et donc, un spectacle de flamenco, c'est incroyable, c'est hyper impressionnant. Wow. On était émus, on avait des frissons. Parce que c'est pas, vous voyez, les danses sévillanes qu'on voit quelquefois, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est plus gitant, c'est plus. Ça prend aux tripes, quoi. Ouais. Ça chante, ça joue de la guitare, ça danse.
C'était... Le canto rondo.
Mais non, mais moi, honnêtement, c'est ce que je disais à Seb, j'avais une image un peu
folklorique.
Folklorique qui ne m'enchantait guère. Et franchement, j'ai été saisi par la beauté de l'instant, ça m'a vraiment ému.
Le Romain, il arrive toujours avec un petit a priori, on va dire, négatif.
Ouais, hein. C'est vrai. Ouais. Et du coup, bon, j'ai été plus qu'agréablement surpris, j'ai passé un moment vraiment délicieux, c'était vraiment formidable.
Et t'as versé ta petite larme.
Je l'ai retenue pour montrer que j'étais fort. Mais intérieurement, j'étais dévasté.
Ah, moi, j'étais scotché. J'étais
Et c'est là, en fait, que tu vois que la culture flamenca, c'est pas pour rien que ça a été classé ou protégé au patrimoine de l'UNESCO.
Exactement.
Parce que c'est une culture profonde, ancienne, très métissée. C'est d'une force. C'est vrai que nous, on en a souvent un petit cliché comme ça, voilà. Mais en même temps,
Là, il y avait un Argentin, je crois, qui était
créateur.
Tout à fait. Un Argentin qui a rejoint les Espagnols pour chanter et danser. Enfin,
Puis chacun avait son rôle à jouer. En fait, dans cette troupe qui était là, c'était magnifique. C'était vraiment d'une grande beauté. C'était un des meilleurs moments du séjour.
Ouais, tout a été sympa. Ouais. Et alors, il y a aussi une particularité à Almeria, c'est Los Refugios. Si tu veux expliquer.
Oh ben oui, c'est pendant les bombardements qu'a subi Almeria, qui était une ville qui a beaucoup souffert
pendant la guerre civile.
Absolument. Qui a été bombardée à la fois par les Allemands et par les Espagnols aussi, en quelque sorte.
Et par l'armée de Franco.
Bien sûr. Et rapidement, il faut aller le voir parce que c'est vraiment une particularité de cette ville. C'est le fait qu'il y a une énorme entraide entre les habitants pour creuser des galeries. Il y a une sorte de ville sous la ville, en fait, des galeries pour protéger les gens. Et donc ça s'est fait mètre par mètre avec des outils vraiment rudimentaires, pelle-pioche. Et puis ils ont consolidé comme ça des galeries sous la ville pour protéger les gens. C'était prévu pour 35 000. Je crois que c'est allé jusqu'à 32 000 personnes à l'intérieur.
Il y avait un hôpital souterrain.
Exactement. Ouais. Et donc, c'est assez impressionnant de voir ce que peut conduire à faire l'entraide, la solidarité entre les gens. Bon, après, évidemment, on apprend que, comme dans la vraie vie, il y a des différences entre les classes sociales. Je sais, Seb, tu peux l'expliquer peut-être.
Oui, donc les gens riches avaient un accès direct aux galeries depuis leur maison. Alors que la population en général, elle devait sortir de chez elle, aller jusqu'à un point d'accès dans une église, dans un lieu comme ça, pour se protéger. Mais c'est super intelligent et surtout c'est une œuvre collective, comme disait Florence. Mmh. L'intérêt de ce truc, c'est que ça a été creusé mètre par mètre, mais collectivement tous les habitants s'y sont mis pour se protéger, quoi.
Ouais.
Donc c'est vraiment exceptionnel. On voit pas ça
a été préservé, ça qui était assez intéressant, c'est qu'à un moment a été envisagé l'idée de de trouver une solution pour s'en débarrasser, et ça a été seulement ils les ont fermé, et puis après réaménagé des années plus tard parce qu'elles étaient plus en condition d'être réutilisées. Il y avait beaucoup de, en fait, tout le tour, si tu veux, et les dans les fondations et le toit, c'est fait en béton, mais par contre le sol était en terre, et donc ça avait infiltré, il y avait eu de l'eau et c'était plus exploitable. Ils les ont réaménagés et aujourd'hui ils sont. Ouais, aujourd'hui on peut en visiter 900 mètres, je crois, sur les 4 kilomètres de galerie.
C'est déjà parlant, quoi.
Exactement. Et c'est vraiment un truc assez troublant à faire et un beau.
C'est unique,
unique, absolument.
Pablo, tu voulais poser une question.
Ouais, mais en fait, tu as quasiment répondu. C'était savoir qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur, comment on s'y sent, c'est éclairé comment.
Alors justement, là aujourd'hui, il y a un éclairage moderne, mais ils expliquent qu'à l'époque, l'éclairage était vraiment rudimentaire, minimaliste absolument.
Débile, comme elle a dit. Ouais. La guide, elle a dit ça.
Mais oui, débile,
la lumière était
faible,
c'est-à-dire faible.
Tout à fait. Tu y vois des choses assez surprenantes, comme le mentionnait Seb tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de petit endroit pour les soins. T'as un lit d'hôpital. Il y avait un endroit pour que les femmes qui étaient enceintes et ainsi de suite puissent éventuellement se reposer sur ces endroits-là. C'est vraiment très particulier. Et après, la plupart du temps, c'est simplement c'est simplement des galeries. Donc t'as un couloir qui est comme ça. Ils expliquent aussi qu'ils ont essayé de faire faire des espèces de contreforts en zigzag pour essayer de, au cas où, s'ils en venaient à bombarder les refugios, que ça n'enterre pas d'un coup toute la galerie, mais que ça absorbe l'onde de choc. Enfin,
il y a comme des contreforts.
C'est ça.
C'est vachement bien pensé. Ouais, en fait, il y a un ingénieur qui était là, qui a pensé la construction.
Tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est les dessins qui sont faits par des enfants au moment des bombardements, où il y a des dessins qui sont naïfs comme ça, mais de ce que voyaient les enfants à l'époque, qui sont faits sur à même le ciment sur les parois, quoi. Donc, on explique ça aussi notamment.
Ça, c'est énorme.
Donc voilà. Et puis, on est allé à Grenade. On a vu l'Alhambra. On a visité l'Alhambra de Grenade. Alors ça, faut vraiment y aller. On en entend parler souvent, hein, de ce palais, en fait, c'est ça. Hein, c'est
tout à fait. Tout
on avait un super guide, Alberto, on le salue.
On espère qu'il a encore envie.
Il était très vieux, très âgé. Je pense que la retraite en Espagne, c'est au moins 1000 ans. Ouais. Et donc, ça vaut le détour. Hein. Ouais, passer une journée à Grenade. Il fait bon vivre.
Qui est très belle ville, d'ailleurs.
Oui, c'est très beau. On va conclure là-dessus.
Qu'est-ce que l'Alhambra a expliqué un petit peu, les gars, quand même, parce que.
Ben ouais, 1045. Alors, ben c'est les palais. En fait, c'est les palais des sultans et des califes quand l'Espagne était occupée.
Tout à fait. Qui ont été repris ensuite et ça a été modifié, évidemment.
Voilà, donc ça a été transformé ensuite en palais par Charles Quint et le palais de Charles Quint, etc.
Et t'as toutes les influences, qui est intéressant aussi, mais il y aurait besoin de beaucoup de temps pour te
dire. Ben oui, on peut faire une émission spéciale.
Il faut surtout t'y rendre. C'est l'occasion.
Ah ouais, je connais. Mais c'est vrai que c'est superbe, c'est magnifique et c'est vrai qu'il y a une architecture absolument sublime, notamment dans les comment dire. Toutes les colonnades qui sont sculptées d'une façon incroyable. Et puis il y a le parc autour, Generalife, avec une vue imprenable.
Sur Grenade.
Voilà. Donc voilà, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'il fait bon vivre en Espagne, il fait bon vivre en Andalousie. Et je pense que les habitants, en particulier Almeria, ils bénéficient d'une qualité de vie bien supérieure à celle des autres villes espagnoles.
C'est une autre vie. Vraiment.
Voilà. On peut dire ça. Voilà. Et on ne fait pas partie de l'office de tourisme, mais on pourrait. On mériterait.
On est dithyrambique sur la ville.
D'ailleurs, un petit clin d'œil encore à ses vacances, à Carmela, et à tout le monde, c'est El Paso del Ebro. Parce qu'on parlait de la guerre civile, évidemment.
Ben oui.
Je fais le lien tout de suite.
Quelle
c'est un chant révolutionnaire espagnol. Jean Van Geek Mafia.
Sur Radio G.
Noche río paso, ay Carmela, una noche río paso, ay Carmela, y las tropas invasoras, y las tropas invasoras, buena París Salesio, ay Carmela, buena París Salesio, ay Carmela, furor de los traidores, furor de los traidores. Pueden bombas, pero nada pueden bombas. Donde sobra corazón, ay Carmela, donde sobra corazón, ay Carmela, con ataques muy rabiosos, con ataques muy rabiosos, deberemos resistir, ay Carmela, deberemos resistir, ay Carmela. Pero igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, el ejército del Ebro, pam pam.
Et voilà, c'était motivé avec El Paso del Ebro, avec l'accent français.
Non mais magnifique.
Creature Shock Radio FM.
Un 2BD, Seb,
oui,
tu nous disais.
2BD, parce que là, tout ça, là, ça me replonge un petit peu dans cet univers. Donc, une BD aussi pour mieux comprendre un petit peu, finalement, ce qu'était la guerre civile. Matteo de Gibras, qui a 6 époques, donc 6 périodes, où vous allez donc suivre le personnage de Matteo englué finalement dans cet univers de guerre civile. Et puis post-guerre civile, justement, de Jiménez, Parasuelos et donc Barito aussi en même temps, qui sont donc deux univers où on va traiter justement des orphelinats franquistes qui étaient chargés de rééduquer finalement les enfants des membres du Front Populaire pour leur apprendre justement d'être de bons franquistes.
Merci Seb.
Voilà.
Un petit clin d'œil au grand Paul. On écoute Rita Payès quelques secondes.
Ah ouais.
Nunca va a comprender. Rita Payès, c'est une chanteuse espagnole, plutôt de Catalogne, mais qui fait du jazz un peu, et c'est magnifique. Très 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 beau.
C'est très beau. Et moi j'en profite pour faire coucou à mes loulous qui nous écoutent.
On fait coucou à tous ceux qui nous écoutent.
Tous ceux qui nous écoutent.
Un bisou. Alors, Rita Payès est une grande guitariste espagnole, mais là on va parler d'un très très grand guitariste chilien. Bien sûr, on va parler de Víctor Jara. Les gars, à vous de jouer.
Oh, je te fais la passe décisive, hein, Pablo, c'est comme chez toi. Donc, passe D, je t'en prie.
Eh ben, écoute, Víctor Jara, c'est effectivement un grand poète, chansonnier, guitariste. Il est mort de façon tragique. Víctor Jara, ce qui était incroyable, c'est que quand tu entends sa voix, il y a une douceur, une limpidité de son timbre. Et quand tu sais la façon... Quand il a la façon avec laquelle
il a été torturé,
ils lui ont brisé
par la dictature chilienne,
ils lui ont brisé les mains,
ouais.
Et ils lui ont coupé les mains et ils ont brisé sa guitare devant un stade complet où étaient enfermés les prisonniers. Donc c'était quelque chose qui a été hyper violent, impactant, parce que c'était un chanteur populaire, c'était un peu le Georges Brassens, si vous voulez, du Chili, quoi.
Mais il représentait tout ce que détestait la Pinochet et autres à ce moment-là, donc ils se sont fait, entre guillemets, ces salauds, hein, désolé pour le mot, mais plaisir en le martyrisant, quoi. Et il se dit, alors, je ne sais pas si la légende, tu sais, Somos 5000, et le poème qui avait été écrit justement par Jara et qui s'était transmis oralement de peur qu'ils étaient dans une chaussette d'un autre co-détenu et ainsi de suite, pour qu'ils sortent de là avant qu'ils se fassent assassiner. Je crois que c'est plus de 40 impacts de balles et tout ce que tu racontais. Enfin, c'est vraiment, ils se sont fait plaisir. Et tu le disais, ça contraste entre la douceur de l'homme, ses valeurs et la brutalité avec laquelle il a été assassiné. Oui. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le stade, désormais, qui s'appelait Estadio de Chile, s'appelle désormais Víctor Jara.
Tout à fait.
Désormais, en hommage. Et donc voilà, c'est un chanteur qu'on aime évidemment beaucoup et c'est un martyr de la, en quelque sorte, de la dictature chilienne.
A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti.
A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti.
Voilà, une chanson sur la guérilla en Bolivie, en fait. Ça parle de ça, cette chanson, de Víctor Jara. Donc, immense guitariste chilien qui a été assassiné par la dictature.
Quelle est votre chanson préférée?
Mais Te Recuerdo, Amanda.
Ah ouais, moi aussi. Ah ouais.
C'est trop triste, on peut pas
les... Moi, c'est Deja la vida volar. Donc là, vous avez les auditeurs et les auditrices, vous avez quelques chansons
à
écouter.
Écoutez, bien sûr.
Deja la vida volar, Te Recuerdo, Amanda. Manifiesto.
Superbe. Alors en France, on a aussi un guitariste très connu, Manu Chao, célèbre dans le monde entier, c'est un international, hein, lui, il est connu à l'international, comme on dit.
Mais il est d'origine espagnole.
Il est, ouais, Chao, il est de Galice, je crois. Son père, Ramon Chao, était un journaliste d'originaire d'Espagne. Et lui et son frère ont fondé la Mano Negra. Et il a fait plusieurs albums qui ont un succès monumental. Et en particulier, le premier album... Clandestino.
Ah oui, ça.
Mais on n'écoute pas Clandestino, on voulait écouter avec Romain la Despedida.
Ah ouais,
ah bah oui.
Le départ. Il faut bien quitter les Andalousies.
À regret.
Oui.
Alors un petit extrait.
Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti. Hoy me despido de tu ausencia. Ya estoy en paz. Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño. Hoy te he borrado de mi paciencia. Hoy fui capaz. Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti. Ya están domados mis sentimientos, mejor así.
Alors Romain,
ouais.
La femme, on y revient.
Bah ouais, on y revient toujours, et parce que tu as passé tout à l'heure Sacatella, et qui était un petit peu notre hymne des vacances. Mais voilà.
Il y avait aussi Itutevas.
Itutevas, qui fait partie évidemment du dernier album du groupe La Femme, le groupe français, tu l'avais cité. Il s'agit de leur quatrième album. Alors ça fait 12 ans, je crois, qu'ils sont formés, et c'est leur quatrième album. Ils ont le premier est sorti en 2013, donc il y a 10 ans. Alors il s'agit, particularité de ce dernier album qui s'appelle Teatro Lúcido, dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il est entièrement en espagnol. Mais alors, à la question, s'agissait-il de leur première fois en espagnol? Eh bien non, parce que dans l'album précédent qui s'appelle Paradigme, l'album qui était sorti, je peux vous dire ça, c'était en 2021, il y avait une chanson qui s'appelait Le Jardin, et qui justement, et ben, curiosité, hein, cher Seb, c'est qu'en fait ils sont allés en Andalousie, et c'est sans doute ce qui leur a donné le goût pour passer, faire le fil conducteur avec dernier album, exactement, avec l'espagnol. Et donc on a plusieurs titres qu'on adore, Sacatella dont on a parlé tout à l'heure, on a
Itutevas,
on a Teatro Lúcido, qui est d'ailleurs le titre de l'album et un titre,
Contaminado,
et une chanson que je voudrais bien écouter pour finir, pour clore,
oui,
qui s'appelle Contaminado, bien sûr. Alors,
qui ne veut pas dire contaminé.
Ça peut vouloir dire ça, la pollution.
Polluer,
ouais. c'est vrai.
Et polluer aussi.
Ouais, parce que en espagnol existe pollution et contaminación, mais les deux peuvent se dire. Cela dit, là, dans le cadre de ce titre-là, il s'agit bien d'être contaminé par
L'amour.
Ouais, en quelque sorte.
C'est ça. Et non pas par le Covid, donc ça c'est.
Ouais, c'est mieux.
Ben,
c'est mieux,
tu peux être aussi contaminé par un rhume. Je peux t'en parler.
Il y a un faux ami en Espagne, c'est constipado.
Constipado,
ça veut dire enrhumé.
C'est ça.
Alors, on a bien rigolé.
Pas autre chose.
Bah non.
Non, effectivement. Donc voilà.
Est-ce que tu veux qu'on écoute Contaminado ou quelques infos supplémentaires?
Je peux vous dire très simplement.
J'aimais bien un morceau de La Femme, mais qui sera un album précédent qui s'appelle Mycose.
Eh ben absolument. Bah figure-toi que Mycose, il fait partie du deuxième album qui s'appelle Mystère.
Bah non, mais le morceau est génial.
Ouais, c'est vrai, mais
t'es contaminé par.
Ouais, c'est vrai, je l'ai pas vu.
T'es contaminé par la mycose.
Non, mais pour le coup, ce qui est sympa dans ce que disait Seb, et c'est tout à fait à l'image du groupe, c'est que c'est assez surprenant. C'est assez
varié.
Ouais, c'est ça. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est une chanson qui est beaucoup plus. Je sais pas, je vous laisse l'écouter, l'apprécier, mais en tout cas, c'était pour moi la meilleure chanson pour. Tout simplement, elle est belle, et c'était une façon d'embrasser l'Espagne une dernière fois.
Mercredi sur 2 sur Radio G. Merci les gars.
Merci à tous les quatre.
Et dans 15 jours, on se fait une spéciale Hellfest, ok?
Exact.
Donc un jour,
autre voyage.
On fait un autre voyage à Clisson.
Oui.
Voilà. Comme tous les ans, on fait une émission spéciale Hellfest. Je pense que c'est le bon moment. Juste avant le week-end de l'Ascension, ça va être top. Ça vous va?
Ouais, et puis ce soir, il y a le warm-up.
Ce soir, il y a le warm-up au Shabada. Allez-y, il y a Burger Cash Control et Betraying the Martyrs. Nous, on y va.
Salut.
Salut,
ciao, ciao.
Dans 15 jours.
À la prochaine.
Hasta luego.
Hasta la vista, baby.
Siento este dolor, me metes lentamente.